Nous, on est à notre 14e jour de grève.
On est en grève à la fois contre le projet de loi asile-immigration qui a été présenté la semaine dernière par Gérard Collomb et à la fois pour la défense de nos revendications propres à nos conditions de travail au sein de la CNDA. Et on continue cette grève puisque notre direction n'a même pas souhaité finalement tenir compte de nos revendications. Elle les a balayées d'un revers de main en nous donnant des miettes, en nous proposant de l'argent alors que nous, on demande un véritable projet de juridiction. On demande à être entendu sur un certain nombre de points. Donc le statut des agents, que ce soit des agents rapporteurs ou des agents secrétaires, qu'ils soient titulaires ou contractuels, on demande à ce qu'il y ait des véritables plans de formation pour tous. On demande à ce que justement les contractuels soient titularisés. Et en fait, on nous dit, tenez, on vous donne 80 euros et puis paisez-vous et arrêtez de faire grève. C'est un peu ridicule tout ça. Voilà, donc c'est un peu, voilà où on en est aujourd'hui.
Pour les demandeurs d'asile qui ont des dossiers par exemple dans le Limousin, il y a quand même des gens qui montent à Paris oui. Des dates en ce moment-là. Est-ce que vous pouvez juste informer eux et leur soutien, vu qu'ils les accompagnent souvent, comment ça se passe?
Alors, pour les demandeurs d'asile qui viennent, ceux qui sont convoqués, en tout cas, c'est depuis le moment de la grève, les rapporteurs et les secrétaires, on essaie de contacter leur conseil, donc leur avocat, avant qu'ils se déplacent, pour leur informer du mouvement de grève. Bien souvent, ils sont déjà au courant de par leur avocat. Et il faut savoir également que chaque matin, chaque jour, nous passons dans les salles d'audience pour pouvoir nous entretenir. Avec les formations de jugement, il y a également en présence de quelques requérants demandeurs d'asile qui seraient présents pour leur expliquer ce pourquoi la grève a lieu.
Et il faut savoir que les personnes, donc les rapporteurs qui font grève, en fait, ce sont eux qui, en premier lieu, savent que l'audience va se tenir ou pas, puisque c'est eux, à eux de décider s'ils sont grévistes ou non. Et à partir du moment où ils sont grévistes, en fait, la consigne leur a été donnée et elle est respectée, de contacter les avocats et si on a un numéro de téléphone du requérant, de contacter le requérant ou son CADA quand il est logé en CADA, justement parce qu'on sait qu'on a un public qui est extrêmement vulnérable, que les billets de train, quand on vient du Limousin, de l'Est de la France ou de Marseille à Montreuil, c'est très coûteux. On sait ce que représente l'ADA. Et on sait que les demandeurs ont de grandes difficultés à rejoindre Paris. Et il est hors de question pour nous, parce qu'on considère que ce serait pas normal, il est hors de question pour nous de laisser monter des requérants à Paris alors même qu'ils ont de grandes difficultés financières et qu'ils sont très vulnérables. Donc, on informe au maximum les requérants leurs conseils. Par contre, les membres de la formation de jugement doivent vous avouer que là, pour le coup, on s'en tient à une explication le matin de l'audience, mais eux ne sont pas forcément concernés par ces déplacements et surtout, ils ne sont pas demandeurs d'asile, ce ne sont pas des publics vulnérables. Donc voilà, mais on a conscience de la difficulté pour les requérants. Nous, on appelle de nos voeux une sortie du conflit avec une direction qui tienne vraiment compte de nos revendications et qui entendent ce qu'on a à lui dire sur notre projet de juridiction et qui nous répondent sur ce projet de juridiction et pas qui nous offrent des miettes. On aimerait sortir de ce conflit parce que il ne faut pas oublier que quand on est en grève, et c'est normal, on perd nos journées de travail, on perd de l'argent nous aussi, on perd du temps parce que c'est autant de temps qu'on ne passe pas sur des demandes d'asile. Donc on en a parfaitement conscience. Et malgré ça, malgré ces pertes qu'on subit nous en tant que agents de la CNDA, on est prêt à prendre ce risque-là parce qu'on considère qu'en fait, une justice de qualité, c'est au service de tous. C'est pas uniquement au service des agents de la Cour. C'est une justice parce que la France, elle a besoin d'avoir une justice de qualité. Il est absolument anormal qu'aujourd'hui, près de 90% des rapporteurs de la Cour soient contractuels, que ce soit des personnes qui finalement sont soumises aux aléas d'un CDD, alors même qu'elles rendent un service public de la justice, donc c'est quand même un service régalien, qui ne devrait pas avoir recours à des contractuels. Et nous, ce qu'on demande, c'est un plan de titularisation pour ces personnes. On demande aussi à ce que nos secrétaires deviennent par des formations, que les formations leur permettent d'accéder au statut de greffier pour les secrétaires qui le désireraient, avec donc un plan de formation, des droits, des décharges pour pouvoir justement aller travailler sur préparer leur concours, etc. Or, ce n'est absolument pas le cas. Ça, ça fait partie d'un vrai projet de juridiction. Et la réponse de l'administration est « ce n'est pas dans l'air du temps ». Ce que vous demandez, c'est coûteux, donc ça ne nous intéresse pas. Hein, je grossis un peu le trait, mais en tout cas, ça n'est pas dans l'air du temps. C'est vraiment ça qu'on nous oppose. Et nous, on demande à avoir de véritables interlocuteurs, à savoir le cabinet du Premier ministre, le cabinet de M. Collomb, le cabinet du ministre de la Justice, le cabinet du ministère de l'Action et des Comptes Publics. Voilà. Donc, on commence à en avoir assez de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être respecté par notre administration.
Vous êtes combien à peu près à travailler à la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile, la Cour nationale, pardon.
Faites pas comme Monsieur Collomb. Hein.
Pardon, je ne fais pas comme Monsieur Collomb. Vous êtes combien à travailler à la Cour nationale du droit d'asile?
On est 410 à peu près. Donc, et sur ces 410, il y a à peu près 210 rapporteurs. Et sur ces 210 rapporteurs, il y en a 190 qui sont contractuels.
C'est énorme.
Ah oui, c'est monstrueux et c'est honteux et c'est ce qu'on dénonce entre autres.
Est-ce que vous pouvez dire un petit mot maintenant, je sais que vous avez Assemblée Générale dans pas longtemps, de la loi sur l'asile?
La loi sur l'asile, alors ça c'est aussi une difficulté. Et nous, nos revendications, elles portent aussi contre ce projet de loi, puisque par exemple en termes de délai, le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile passe d'un mois à 15 jours. Déjà qu'un mois c'est très court. N'oublions pas qu'on est face à un public vulnérable, à des gens qui ne parlent pas la langue, qui doivent contacter leur avocat qui leur a été attribué par le biais de l'aide juridictionnelle, souvent, et que ces personnes-là, en fait, il faut qu'elles puissent faire traduire les pièces qui arriveraient de l'étranger, il faut qu'elles prennent contact avec leur avocat, qu'elles trouvent quelqu'un pour leur servir d'interprète. Ce sont des personnes qui n'ont pas le droit de travailler, donc forcément qui n'ont pas de revenus, hein, et donc c'est très très compliqué à mettre en place. Et avoir un délai seulement de 15 jours pour faire un recours contre une décision qu'on n'a même pas forcément comprise, qui ne nous a même pas forcément été notifiée, hein, c'est très très compliqué. Donc ces personnes-là, elles ont besoin de temps. Le délai d'un mois, c'est déjà un délai qui est entre guillemets hors norme, puisque normalement devant une juridiction administrative, le délai de recours est de 2 mois. Là, pour les demandeurs d'asile, il n'était que d'un mois et on souhaite le passer à 15 jours en oubliant que ce public est vulnérable ou peut-être justement en pensant que ce public est vulnérable et ne fera pas de recours. Je ne sais pas quelles sont les intentions politiques du gouvernement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des rapporteurs, ça va compliquer la cadence de travail, ça va aggraver la charge de travail, ça va aggraver le taux de renvoi puisque les personnes n'auront pas de pièces forcément traduites, donc ils vont nous fournir des pièces non traduites. Ils vont demander le renvoi de leur affaire justement pour pouvoir traduire les pièces. Le dossier va prendre du temps. Le rapporteur, lui, il va se retrouver face à un dossier qui n'est pas forcément complet. Donc, il va nous demander qu'on prenne des mesures d'instruction pour compléter ce dossier. Enfin, c'est toute la machine qui va être grippée par rapport à ça. Ça, c'est uniquement sur le délai de recours. Tout à l'heure, vous nous parliez des requérants qui viennent du Limousin et qui doivent effectivement venir jusqu'à Montreuil pour se présenter devant la Cour. Alors, certes, c'est coûteux, certes, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, mais on a déjà recours aux vidéo-audiences pour les requérants qui sont en Outre-mer, et on se rend compte, en fait, que ça coupe le requérant et la formation de jugement de la réalité des persécutions, etc. Un récit, c'est du vécu. La décision, elle va être prise par rapport à des faits qui sont établis ou non établis, et aussi par rapport au ressenti. Déterminer si une personne a telle ou telle orientation sexuelle, il n'y a pas non plus que des faits qu'on peut tenir pour établis. Il y a aussi le ressenti de la formation de jugement. Et on a déjà cet écueil face à tout notre public outre-mer, tous nos requérants outre-mer. Et les requérants qui sont actuellement en vidéo-audience ont la possibilité de refuser. À partir du moment où le projet de loi va passer, s'il passe en l'état, ils seront dans l'obligation d'accepter la vidéo-audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on va avoir des requérants qu'on n'aura pas de visu, donc avec une perte au niveau des sentiments de vécu, etc., qu'on pourrait avoir quand on a la personne en face de soi, et on rajoute à ça la difficulté d'avoir des interprètes. N'oublions pas que nos secrétaires ne sont pas des greffiers. Comment est-ce qu'on va faire pour faire les PV, les procès-verbaux d'audience? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir avoir aussi des personnes qui nous assurent en fait des dires du requérant, des dires de l'interprète, parce que les interprètes sont des interprètes qui sont assermentés. Comment est-ce qu'on va multiplier les langues rares dans le tribunal administratif qui serait je ne sais où. Nous, à la Cour, on a des marchés publics d'interprétariat qui sont avec des cabinets d'interprètes hein, qui sont assermentés, qui sont des personnes compétentes et dont on sait qu'ils seront disponibles à la Cour pour interpréter. Si on se retrouve avec des personnes qui demandent une langue entre guillemets rare dans un tribunal administratif qui ne dispose pas de l'interprète assermenté dans cette langue, ça veut dire qu'on pourra entendre le requérant en vidéo-audience dans la langue la plus proche de la sienne dont on peut penser qu'il la comprenne. Enfin bon, là c'est un écueil total. Et enfin sur, je vais vite hein, parce que je reprends pas tous les aspects du projet de loi, mais par exemple sur les personnes originaires de pays dits d'origine sûre ou qui seraient une demande de réexamen dite irrecevable, là, l'effet suspensif du recours devant la CNDA est levé, c'est-à-dire que ces personnes-là, en fait, elles peuvent être sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, et à partir du moment où elles sont sous le coup de cette OQTF, qu'elles soient vraiment victimes de persécution ou non, à partir du moment où la police les attrape, les met en centre de rétention et les renvoie dans leur pays, nous, devant la CNDA, on n'a plus de traces de ces personnes. Ces personnes, elles ont peut-être une légitimité à obtenir un statut et elles vont perdre en fait la possibilité d'être protégées par la France, qui est quand même le pays des droits de l'homme. Elles vont perdre cette possibilité et elles risquent de se retrouver face à des persécutions qu'elles fuyaient dans leur pays d'origine, renvoyées par la France dans leur pays d'origine. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas non plus accepter. Et finalement, mon dernier point, ce sera aussi la possibilité pour le gouvernement de pouvoir modifier le texte de loi par le biais d'ordonnances. Et là aussi, c'est très grave parce que le texte est suffisamment large pour que, j'ai plus les termes exacts de l'article, je crois que c'est l'article 24, mais les termes sont suffisamment larges pour qu'en fait, on puisse mettre tout et n'importe quoi dans les ordonnances qui seraient prises désormais par le gouvernement. Vous voyez, c'est tout ça qui nous inquiète sur le projet de loi. Et nos revendications en tant qu'agents de la CNDA avec un véritable projet de juridiction qui est porté par les agents, finalement, elles sont en cohérence par rapport à ce projet de loi qui nous paraît finalement détruire le droit d'accès à la demande d'asile. Pas détruire le droit d'asile, c'est le droit d'accéder à l'asile dans des conditions normales pour la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, le pays des Lumières, un pays qui est censé respecter les personnes qui viennent dans son pays pour être protégées dignement. On a quand même signé la Convention de Genève en 51, et là, on a l'impression que ce qu'on a signé, c'est en train de se perdre. Donc, dans ce cas-là, qu'on sorte de la Convention, qu'on arrête d'accueillir des réfugiés et qu'on le dise clairement.
Eva Ongbauvert, vous êtes, je rappelle, rapporteuse à la Cour nationale.
Rapporteur, on dit rapporteur. Vous pouvez mettre un E si ça vous fait plaisir, mais je suis rapporteur.
D'accord. Rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile. Vous faites grève et pendant ce temps, les demandes d'asile ne sont pas traitées normalement. Déjà qu'elles ne l'étaient pas, si j'ai bien compris, avec le manque de moyens dont vous parlez. Le gouvernement cherche à restreindre ce droit d'asile et finalement, cette grève. On peut imaginer qu'un pourrissement, ça lui va très bien au gouvernement. Comment vous allez faire ?
Ben en fait, on a une difficulté aujourd'hui, c'est que les agents se cristallisent dans leur position, puisque forcément, hein, quand vous êtes méprisé par votre direction, ça vous donne pas envie d'accepter ce qu'ils proposent. D'autant que ce que je vous ai expliqué, c'est que ce qu'ils proposent, c'est de l'argent face à un projet de juridiction. Donc, on est complètement hors des clous. Nous, on veut pas de l'argent pour l'argent. Voilà, donc ça déjà c'est une grosse difficulté. Nous ce qu'on attend c'est une sortie de crise qui vienne de notre direction et qu'elle entende la direction, ce qu'on a à lui dire, qu'elle le prenne au sérieux. On a conscience de ces gens qui sont derrière les numéros de dossier justement contrairement à notre direction. On sait qu'on a des humains en face de nous et je pense qu'on est peut-être les seuls de la juridiction, les agents, on est les seuls à avoir conscience de cette réalité-là parce que la direction n'ouvre pas les dossiers. Et nous, on sait ce qu'il y a derrière ces récits, on sait la souffrance de nos requérants, on a hâte que le conflit se termine, mais on a hâte d'être entendus sur nos revendications, d'être pris au sérieux et non pas méprisés comme c'est le cas actuellement. Donc tant que la direction se braquera, je pense que le mouvement n'est pas prêt de se débloquer. Il faut absolument qu'on ait les bons interlocuteurs en face de nous, donc On est navré, mais apparemment la direction de la Cour et la direction du Conseil d'État finalement ne sont pas les interlocuteurs suffisants. En tout cas, ils n'ont pas la maîtrise des moyens qu'on appelle nous de nos voeux. Donc malheureusement, on demande autre chose, on demande au-dessus, on demande au Premier ministre d'intervenir s'il le faut. Quand on doit recevoir les agriculteurs, M. Macron trouve le temps de les recevoir. Alors les agriculteurs, ils font, j'ai rien hein, contre le combat des agriculteurs, bien au contraire. Ce sont des gens qui produisent. Alors nous, on produit pas en termes de quantité, hein. C'est sûr qu'on n'est pas le grenier à blé de la France, mais on est garant de la justice en France. Et je trouve qu'à ce titre, on mérite d'être entendu par les bons interlocuteurs. Et pour ceux qui soutiennent notre combat, il faut rappeler aussi qu'on a une cagnotte Litchi. Alors, j'ai pas l'adresse exacte, mais si vous allez sur Twitter, @CNDAEnGrève, ou sur la page Facebook, CND en grève, vous trouverez des informations pour nous soutenir, parce que pour le moment, on peut seulement payer, entre guillemets, un jour de grève avec notre cagnotte pour la centaine d'agents grévistes. Et c'est vrai qu'au 14e jour de grève, on aimerait pouvoir un peu soulager les agents, parce que la grève, on sait que c'est pas payé, c'est un combat qui est difficile et douloureux, mais on a besoin d'aide pour tous ceux qui soutiennent le droit d'accès aux demandeurs d'asile et une justice de qualité. Merci beaucoup.